VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre le terrorisme en Afrique. Nouvel appui sécuritaire des États-Unis au Cameroun sous forme de matériel sophistiqué de surveillance des aéroports et des frontières. Une assistance qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les insurgés nigérians de Boko Haram. Martin Mbargangele, le délégué général camerounais à la Sûreté nationale, a souligné l'importance de l'appui américain.
Les États-Unis d'Amérique vont installer dans nos aéroports et postes frontières un système d'identification comparatif et d'évaluation individuelle sécurisé, PICES, qui permettra de mieux contrôler les mouvements des personnes et des biens qui traversent nos frontières.
Les États-Unis avaient précédemment fourni à l'armée camerounaise des équipements militaires ainsi que des conseillers pour appuyer la lutte contre les militants de Boko Haram. Le Cameroun fait face aux insurgés nigérians depuis 2013, lorsqu'ils ont commencé à attaquer les localités camerounaises proches de la frontière nigériane. Élection au Congo-Brazzaville maintenant. Le président congolais sortant Denis Sassou Nguesso, qui cumule 32 ans de pouvoir à la tête du pays, a été réélu dès le premier tour lors du scrutin présidentiel de dimanche, avec 60% des voix. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou. Monsieur Mboulou a fait cette annonce à la télévision nationale. Hier, deux candidats d'opposition à la présidentielle du 20 mars avaient contesté les résultats partiels publiés la veille par la Commission nationale électorale indépendante, qui donnait à Monsieur Sassou Nguesso 67% des voix. Toujours au Congo-Brazzaville, trois journalistes de l'AFP et du quotidien français Le Monde, couvrant l'élection présidentielle, ont été agressés par les hommes se présentant comme des policiers hier à Brazzaville, à 500 mètres du domicile du général Jean-Marie Michel Mokoko, un opposant candidat à la présidence. Les confrères venaient de recueillir les déclarations du général Mokoko. Par ailleurs, les télécommunications ont été coupées dans le pays depuis le jour du scrutin. Pourquoi cette décision ? Idriss Fall a posé la question à Ellie Smith, journaliste expulsée de Brazzaville, maintenant basée à Washington.
Officiellement, le gouvernement congolais dit que c'était pour éviter qu'il y ait des fuites d'informations pendant les élections présidentielles. Mais la réalité est que, vu que nous sommes au 21e siècle avec la technologie des réseaux sociaux, le gouvernement avait peur que la réalité puisse apparaître dans le monde entier. Voilà la raison pour laquelle ils ont coupé la communication. Pour citer un ministre qui ne veut pas être nommé, il dit « Nous voulons tricher, mais non, on ne veut pas que le monde voie ce qui se passe. »
Mais normalement, ça devrait durer deux jours, dimanche et lundi, mais on est mercredi, non?
Exactement. Ils ont dit qu'ils vont couper jusqu'à peut-être vendredi, selon les informations que j'ai eues aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont été surpris que malgré le fait que ça a été suspendu, tous les procès-verbaux sont à la disposition de tout le monde. Donc ils ont peur que si on lève cette interdiction, il peut avoir un soulèvement parce que la population, il y aura des communications par téléphone et puis les gens vont peut-être contester leur victoire.
Comment les gens font au quotidien pour communiquer?
Il y a deux ou trois manières. La première que les activistes ont fait, que beaucoup de gens ont téléchargé une application qu'on appelle FireChat. C'est ça qu'ils utilisent. D'autres ont acheté les puces de la République démocratique du Congo. Vous savez, la RDC, c'est le grand voisin de notre Congo. Donc, ceux qui ont cette possibilité d'avoir des applications ou des puces de la République démocratique du Congo peuvent communiquer. La troisième option est qu'il y a d'autres qui ont les moyens de communiquer par satellite.
Comment expliquez-vous qu'en Afrique centrale, les chefs d'État rivalisent à rester le plus longtemps possible au pouvoir?
Ça s'explique parce qu'en Afrique centrale, il y a une dictature féroce. Vous savez, c'est les gens qu'apparemment, quand vous voyez les chefs d'État de l'Afrique centrale, ils sont toujours tirés à quatre épingles. Ils ressemblent à deux gouttes aux Occidentaux. Et puis la deuxième manière est qu'en Afrique centrale, contrairement à l'Afrique de l'Ouest, la société civile est détruite par un pouvoir hyper fort. Donc voilà la raison pour laquelle ces chefs d'État mettent longtemps. Et puis cerise sur le gâteau, c'est le soutien que la France donne à ses chefs d'État, parce que ce sont des régions qui sont riches potentiellement en hydrocarbures et d'autres minerais.
Ellie Smith, journaliste camerounais basé à Washington. En Guinée équatoriale, le Front de l'opposition démocratique FOD a appelé a boycotté l'élection présidentielle du 24 avril en estimant que toutes les conditions sont réunies pour des fraudes. Plus de détails avec John Lyndon.
Le FOD appelle ses militants et la population à ne pas aller voter car cette élection est anticonstitutionnelle. Le président Théodore Obiang-Nguema ne respecte ni la constitution ni les lois, a déclaré un de ses leaders, Guillermo Nguema-Ela, lors d'une conférence de presse à Malabo. Ce front de l'opposition équato-guinéenne regroupe la Convergence pour la démocratie sociale, seul parti d'opposition à avoir une représentation au Parlement avec un député et un sénateur. L'Union populaire, la Force démocratique républicaine et le Mouvement pour l'autodétermination de l'île de Bioko. L'opposition justifie son appel au boycott par l'absence de commission électorale indépendante, de recensement biométrique et la mainmise absolue du parti au pouvoir sur les médias d'État. Initialement prévu en novembre, le scrutin a été avancé au 24 avril par décret présidentiel sans aucune explication.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Guinée-Bissau, maintenant, l'instabilité politique est en train de bloquer le soutien promis par les donateurs internationaux au pays lors de la table ronde de Bruxelles l'année dernière. Des détails avec notre correspondant à Bissau, Noah Mankali.
L'information a été donnée par le ministre de l'économie et des finances de la Guinée-Bissau, Gérald Martins, faisant allusion au bilan de la première année après la table ronde organisée en Bruxelles en mars 2015. Gérald Martins a regretté le malentendu qui a causé l'inaction du gouvernement en faveur des engagements avec le peuple bissau-guinéen. Mais Martins a dit qu'en raison des efforts remarquables de l'exécutif, la productivité du gouvernement ne peut pas être considérée comme négative. 50% de performance est la classification donnée par le ministre de l'économie et des finances parce qu'on n'a pas reçu la promesse faite par la moitié des partenaires. En ce qui concerne les partenaires de grands projets qui attendent de voir plus clairement ce qui se passera dans le pays avec cette instabilité, si les différends au Parlement sont résolus et que le programme du gouvernement élu en 2014 présenté à la réunion des donateurs reste en vigueur, cela peut faciliter pour aller à un rythme beaucoup plus rapide, a déclaré Gérald Martins. Nouaman Kalibissao, VOA Afrique.
L'actualité hors d'Afrique maintenant, Belgique, attentat de Bruxelles, une réunion extraordinaire des ministres de l'Intérieur et de la Justice des pays de l'Union européenne est convoquée aujourd'hui dans la capitale belge pour apporter une réponse européenne après les attaques. Le gouvernement belge a par ailleurs appelé à une nouvelle minute de silence dans tout le pays en hommage aux victimes pour le troisième jour de deuil national. Par ailleurs, la police belge traque deux suspects en fuite qui n'ont pas été identifiés. Conflit en Syrie, le groupe État islamique a ordonné aux quelques 15 000 civils encore présents à Palmyre de fuir cette ville syrienne que les troupes gouvernementales du président Bachar Assad cherchent à reprendre. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La progression des forces pro-régime est toutefois ralentie par les engins explosifs laissés par l'État islamique dans les champs autour de la ville. Une source de sécurité syrienne a affirmé mercredi que l'armée, désormais aux portes de Palmyre, se préparait à débuter la bataille de la libération de la ville prise par les djihadistes armés. Et puis, le secrétaire d'État américain John Kerry est à Moscou. Il doit discuter aujourd'hui avec le président russe Vladimir Poutine de la transition politique en Syrie. Maëlie Segel.
Les regards seront tournés vers Moscou pour connaître l'issue de la rencontre entre Kerry et Poutine. Washington souhaite le départ de Bachar al-Assad. Moscou estime que seuls les électeurs syriens ont le droit de décider de son sort. Les pourparlers indirects à Genève font du sur place. Stéphane de Mistura, l'émissaire onusien, souhaite un coup de pouce de John Kerry et son homologue russe Sergueï Lavrov. Lorsqu'ils s'entendent, ça aide énormément, a-t-il déclaré, faisant allusion à la trêve qui tient depuis fin février en Syrie. La feuille de route fixée par l'ONU prévoit la mise en place dans les 6 mois d'un organe de transition censé élaborer une nouvelle constitution et organiser des élections dans un délai de 18 mois. Seulement, les bombardements russes ont permis au régime syrien de regagner du terrain face à ses nombreux opposants. L'annonce surprise, il y a une dizaine de jours, du retrait du contingent russe de Syrie a été perçue comme un signal envoyé au régime pour qu'il entre sérieusement dans les négociations en vue de trouver une solution.
Et pour terminer, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie rend aujourd'hui son verdict contre l'ancien chef politique des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic. Karadzic est accusé notamment de génocide pendant la guerre en Yougoslavie après les pires atrocités commises en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.